La répression politique, en fait, intervient après une relative, vraiment très relative, mais une libéralisation par rapport à l'opposition. Alors, le fait que les candidats à l'élection présidentielle aient pu s'exprimer un peu plus librement qu'auparavant, mais c'est pas pour ça que la télévision d'État s'est libéralisée du jour au lendemain. Ils ont eu un petit peu plus de d'audience. Donc ces répressions interviennent après une libéralisation qui visiblement au final a fait très peur au pouvoir politique. Hein. C'est-à-dire que la libéralisation a entraîné en tous les cas une manifestation de grande envergure, peut-être à laquelle le pouvoir n'était pas préparé. Et le pouvoir a sans doute voulu réprimer très fortement pour montrer que s'il y avait une ouverture possible, l'alternance au pouvoir était impossible.
Après tous ces procès, donc il y a eu une bombe contre le palais de justice, des fleurs aussi aux manifestants libérés. Dans quel état est aujourd'hui l'opposition ?
Pour moi, l'opposition actuelle, là, les leaders vont être emprisonnés. C'est-à-dire, le peu de personnes qui avaient réussi à émerger malgré la répression politique continue, hein, ces leaders aujourd'hui sont muselés. Hein. Donc, bien évidemment, il y aura toujours une résistance politique au régime. Elle existe dans n'importe quel régime autoritaire, mais elle va se trouver très affaiblie parce que là, les condamnations font que, bien évidemment, un certain nombre de personnes vont réfléchir à deux fois avant d'aller manifester.
Bruxelles a donc sanctionné près de 190 personnes. Est-ce que ces sanctions sont utiles ?
Non, elles ne sont pas utiles, ce sont plus des sanctions de principe. Et l'Union européenne le sait, puisque justement, elle avait essayé de trouver un autre moyen, en intégrant la Biélorussie, en essayant d'instaurer un dialogue. Donc l'Union européenne n'adopte pas une politique de sanctions permanente, elle essaye de jouer avec les moyens qu'elle a, et les moyens sont faibles. C'est-à-dire que lorsqu'on a une dictature, les moyens de faire infléchir un régime sont extrêmement limités. On sait que l'Union européenne avait essayé d'agir à travers la Russie aussi, en essayant de montrer à la Russie qu'elle avait vraiment un partenaire assez désagréable. Mais cette stratégie n'a visiblement pas fonctionné non plus.
Vous avez évoqué Moscou. Quel peut être le rôle de la Russie ?
Tout d'abord, la Russie n'est pas un modèle de démocratie. Il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, les intérêts de l'Union européenne et de la Russie sont totalement différents vis-à-vis de ce pays. Le régime politique biélorusse est un régime dérangeant du point de vue de l'Union européenne. La Russie a besoin de se justifier dans ses actions de soutien économique à ce régime biélorusse. Mais au niveau international, la Biélorussie n'est pas une entrave trop importante pour la Russie. Je dirais même que parfois elle peut servir les intérêts russes sur la scène internationale, notamment dans une volonté de contrepoids à l'hégémonie américaine. Donc ce que cherche la Russie, c'est avant tout à prendre le contrôle économique de la Biélorussie. L'ouverture démocratique peut s'avérer, là aussi, risquée pour la Russie, puisqu'une ouverture démocratique veut dire changement de pouvoir, et changement de pouvoir, ça veut dire l'arrivée au pouvoir de personnes qui pourraient se rapprocher de l'Union européenne et chercher une indépendance économique beaucoup plus forte vis-à-vis de la Russie. La Russie se souvient très bien de l'alternance au pouvoir avec la présidente Yushchenko en Ukraine, et elle ne veut absolument pas risquer ce genre d'opérations en Biélorussie.